Aujourd'hui, je prêche dans le cadre de cette série sur le livre des Proverbes. Je sais que vous avez été bénis jusqu'à maintenant avec plusieurs messages sur le livre des Proverbes, qui est un livre vraiment magnifique. Et moi, je vais finir la série aujourd'hui. Je vais conclure cette série et je vais aussi prêcher à la manière des Proverbes. Vous savez, d'habitude, quand on prêche, un prédicateur, ça prend un, deux ou trois pensées qu'on développe. Hein? Pasteur André, c'est un expert là-dedans, il développe, il creuse. Et ce matin, je vais faire un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Au lieu de prendre une, deux, trois pensées, je vais prendre vraiment beaucoup de pensées. Et on va passer à travers rapidement. Un peu comme quand on lit les Proverbes. Si vous avez déjà lu les Proverbes, il y a une phrase, ah, on trouve ça intéressant. Et là, la phrase d'après, oh, on s'en va des fois ailleurs dans la phrase d'après. Et ça continue comme ça, et c'est comme un condensé de sagesse. Et c'est un peu comme ça que je vais faire ma prédication ce matin. Donc, certains points vont être très rapides, d'autres, je vais m'attarder un petit peu plus. Bien sûr, je suis un prédicateur, il faut que ça sorte, il faut que j'en parle, il faut que je l'explique un peu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Réussir ses relations avec les proverbes ». Tout le monde ici, je sais que vous aspirez à réussir chacune de vos relations. Vos relations de couple, pour ceux qui sont en couple, vos relations avec vos enfants, vos relations avec les membres de votre famille, dans tous les sens possibles, parents, frères, sœurs, cousins, cousines, les relations avec vos amis, et aussi les relations avec vos frères et sœurs chrétiennes. On veut réussir nos relations, et le livre des Proverbes est rempli de conseils très, très pratiques. Vous allez voir, c'est un message très, très pratique, rempli de conseils pour nous aider à réussir nos relations. Ce qui a pris place pendant la pandémie, pendant les dernières années, c'est qu'on a un peu perdu certaines de nos capacités relationnelles. Hein? On a été isolés, on a été éloignés les uns des autres. Et là, des fois, quand on se revoyait, on savait plus trop comment se saluer. Avez-vous déjà vécu ce petit malaise-là? Là, t'arrives, ah, c'est-tu un anti-COVID ou un pro-COVID? Est-ce que je garde 2 mètres? Est-ce qu'un 1,50 m, ça va? Masque, pas masque, poignée de main, les poings comme ça, les coudes, le pied, le câlin, pas le câlin. On sait plus comment agir. Y'a-tu juste moi? Hein? Maintenant, on est revenu à un presque normal, mais quand même, on a encore ce mini malaise. On sait plus trop. Il vient-tu de la ville? S'il vient de la ville, il amène-tu la COVID? Je sais que ça, c'est ce que vous pensez ici en région, là. T'as pas pensé, hein? Va te laver les mains, tu reviendras, je t'attends. On a besoin de réapprendre ou de se perfectionner dans comment on gère nos relations. Et ce matin, mon but, c'est de te donner des outils, de t'équiper afin que tu deviennes meilleur dans tes relations et que tu puisses glorifier Dieu aussi dans la façon que tu traites les gens qui t'entourent. Est-ce que je peux entendre quelque chose? Non, j'ai dit un quelque chose. OK. 4 points rapidement. On va voir des conseils généraux sur les relations. On va voir quelques conseils pour réussir son mariage, quelques conseils pour réussir avec ses enfants et on va terminer avec quelques conseils pour réussir ses amitiés. Vous êtes prêts? C'est parti. C'était mieux de le capter vite parce qu'il y a beaucoup de choses ce matin. Première chose, premier conseil, c'est dans Proverbes 16:20. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit, trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Premier conseil aujourd'hui, devenons des gens à l'écoute des autres. Il y a des gens pour qui c'est facile pour vous. Hein, vous écoutez, vous êtes une éponge. Puis il y en a d'autres pour qui c'est très difficile pour vous d'être à l'écoute. Parce que votre bouche, là, elle veut toujours dire quelque chose. Vous êtes avec quelqu'un et vous parlez, et vous prenez pas le temps d'écouter l'autre. Et en tant que chrétien, en tant qu'homme, femme de Dieu, on est appelé à avoir 2 oreilles et une bouche, à écouter 2 fois plus qu'on parle. Et moi, si vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime parler. Bien, c'est pas pour rien que je suis prédicateur, que je parle. J'aime parler, j'ai toujours quelque chose à dire, j'ai toujours une histoire à raconter. Et une des personnes qui m'a aidé à être plus à l'écoute, c'est ma femme. Combien de fois on a vécu des soupers avec des amis et je sentais comme un genre de regard ou un mépris de la part de ma femme ou même des fois un petit coup de pied. Tu sais le fameux coup de pied en dessous de la table, là? Hein, combien, messieurs, vous avez déjà reçu un coup de pied en dessous de la table? André, Céline a fait ça avec toi? T'as pas besoin, toi. Pas besoin. Ouais, mais moi, elle a besoin. Ouais, c'est ça. Avec son visage, tu le sais immédiatement, exactement. et les petits coups de pied en dessous de la table, puis à la fin des repas, ben qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me regardais de même, t'as pas arrêté de parler, ouais, mais j'avais des choses à dire, ouais, mais eux, là, premièrement, t'es un pasteur, ok, deuxièmement, là, intéresse-toi donc plus aux gens, écoute-les plus. Quel bon conseil que ma femme m'a donné, un conseil qu'on retrouve aussi dans les proverbes, être à l'écoute des autres, s'intéresser aux autres. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? Et ça évite aussi d'avoir des bleus au tibia. Okay? Être à l'écoute des autres. Deuxièmement, de veiller sur nos paroles. On pourrait prêcher plusieurs messages sur le thème de veiller sur nos paroles. Je vous lis juste quelques versets très rapidement, mais vous comprenez le principe. Proverbe 10:10. Et celui qui parle comme un fou court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie. Proverbe 12:18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Proverbe 15:26. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Et on pourrait prêcher longtemps là-dessus, mais bien sûr que de maîtriser ce qui sort de notre bouche est essentiel pour réussir nos relations. Faire attention de ne pas dire tout ce qu'on pense tout le temps. Faire attention de ne pas blesser l'autre. Avoir de la considération pour l'autre. Veiller à ce que nos paroles soient pleines de grâce, de gentillesse, d'amour. D'éviter la critique. D'éviter de dénigrer l'autre. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Que le Seigneur nous aide à gérer notre bouche, notre langue. Vous savez, il y a plein de textes dans la Bible qui nous parlent de la gestion des paroles. La Bible dit entre autres que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, comment est-ce qu'on... Puis que c'est aussi un tout petit membre de notre corps, mais que c'est le plus dur à maîtriser. Hein, que c'est comme un feu. Et moi, je prie que dans Charlevoix, il y a une église qui fait attention. Comment on se parle les uns les autres. Qu'on a de la considération les uns pour les autres. Amen. Troisièmement, voir au-delà des apparences. J'aime ce proverbe 14:13 qui dit « Au milieu du rire, le cœur peut être dans la peine et la joie peut finir en tristesse. » Et comme chrétien, on veut rechercher des relations qui sont authentiques. C'est correct de dire « Ça va-tu bien? Oui, ça va bien. Il fait-tu beau? C'est-tu le fun? Oui, il fait beau. » C'est correct. Mais on est appelé à aller un petit peu plus profond en nos relations les uns envers les autres. Et moi, ce que je vous appelle, c'est de voir au-delà des apparences. Il y a des gens qui vont sourire, hein, comme le texte dit, ils vont sourire, mais dans leur cœur, ça va pas. Ça va pas. Ils souffrent. Ils sont en dépression. Il y a une difficulté, il y a un souci, il y a un fardeau qui pèse. Il y a une tristesse dans leur cœur. Puis comme chrétien, on ne veut pas juste dire « ça va-tu? Oui, ça va, puis on continue. » On veut avoir cette sensibilité-là à l'autre. Et c'est une faculté, on peut observer des choses pour voir si la personne ne va pas, mais aussi le Seigneur peut nous donner une sensibilité spirituelle pour voir si quelqu'un a besoin de parler. Et dans une église, ça se décline comme ça. C'est que tu vas voir quelqu'un, « Hey, comment ça va bien? » Puis là, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de continuer ton chemin, c'est « Es-tu sûr que ça va? T'aimerais-tu qu'on prenne un temps ensemble? Y a-t-il quelque chose que t'aimerais qu'on parle? Est-ce que je peux prier pour toi? » Comprenez-vous? L'attention de plus, le souci de plus. Et le souci de plus peut même sauver des vies, vous savez? Ça peut sauver une vie. Il y a quelqu'un qui peut penser au suicide, puis parce que tu prends le temps avec, tu peux sauver une vie. Parce que là, elle va s'ouvrir, puis ça va être un processus de guérison. Que Dieu nous donne de voir au-delà de l'apparence. Prochain conseil. Les relations nous forgent et nous forment. Le texte, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise, s'aiguise au contact de son prochain. Vous savez, c'est bien plus facile d'être toute seule chez vous que de parler à personne. Des fois, on aurait le goût de faire ça. C'est juste moi? Oui, je vois cette main dans ce coin. On va prier pour ce charmant jeune homme tantôt. Il en a besoin. Et c'est plus facile d'être chez eux tout seul. Il y a des gens qui ont souffert de la pandémie, il y a des gens qui ont vraiment aimé ça, être tout seul chez eux. C'était comme, mais c'est-tu le fun? J'ai personne à qui parler. Pas d'effort, écouter la télé, travailler sur mon ordinateur. Wouh! Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup de même ici, là, mais il y en a quelques-uns peut-être. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin des uns des autres pour être transformés. On a besoin de l'Esprit de Dieu, mais on a besoin d'être au contact les uns des autres, afin d'être aiguisés, afin d'être plus efficaces pour le royaume, afin de devenir les hommes et les femmes que Dieu nous appelle à devenir. Ne vous inquiétez pas, je vais tuer ou faire de mal à personne, OK? La Bible dit « le faire aiguise le faire ». Et lorsque tu es au contact de quelqu'un, ça s'aiguise. Et tu vas pouvoir couper avec à soir. Et là, y a-tu rien de plus plate que de couper une tomate avec un couteau qui coupe pas? Hein? Comme tes foires, la tomate. Ça fait des moins belles tranches dans un hamburger, OK? C'est le fun quand tu coupes, puis ça coupe comme dans du beurre. Puis en tant que chrétien, on a besoin d'être aiguisés les uns par les autres. Quand quelqu'un, des fois, nous fait un petit reproche ou prend le temps de nous parler ou adresse quelque chose qu'on devrait changer dans notre vie, on n'aime pas vraiment ça. Hein, des fois, ça nous dérange. Ou des fois, quelqu'un a un caractère qui est différent d'une autre, puis là, ben, il peut avoir des accros. Est-ce que ça vous arrive ou c'est juste moi que ça arrive des fois? Hein? Des fois, on dit à quelqu'un, t'es mon papier sablé. Vous je dis ça à quelqu'un, t'es mon papier sablé. Hein? Non? Maintenant, tu vas le dire, hein? C'est ça. Hein? Mais quand on se côtoie les uns les autres, on est aiguisé et on devient de plus en plus semblable à ce que Dieu veut qu'on devienne. Amen! Donc, les relations nous forgent. Quand on comprend ça, on accepte. On accepte mieux d'être au contact des gens qui sont différents de nous, puis qui nous travaillent un peu, puis qui nous transforment un peu. C'est un peu comme si tu vas couper du bois avec une scie à chaîne, tu as besoin de prendre le temps d'aiguiser ta scie avant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de couper du bois avec une scie à chaîne qui n'est pas aiguisée. Hein, tu forces, puis tu pousses dessus, puis le bio, il ne se coupe pas. Mais quand elle est bien aiguisée, là, hey, ça coupe là, comme dans du beurre encore, le beurre. Tu coupes comme dans du beurre. Puis là, il y a des gens, Dieu veut faire de vous des gens efficaces, utiles pour son royaume, mais vous ne l'êtes pas encore parce que vous ne vous laissez pas être aiguisé par les autres. Dieu veut t'aiguiser. Dieu veut te façonner. Dieu veut changer ton caractère, ta façon d'être, ton attitude. Quand on était très jeune, avant qu'on soit mariés, j'ai toujours eu un caractère très sanguin, explosif. Je suis le seul ici de même, là, dans cette foule-là. Et, merci. Et avant qu'on se marie, il est arrivé un moment où on a eu un petit conflit de couple, quasiment ado. Et là, je me suis fâché. Puis, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dans les mains, mais j'ai pitché quelque chose sur la table. Ça a fait un gros... Puis là, ma femme, elle a pas aimé ça. Ma future femme, elle a pas aimé ça. C'était un geste de violence. Elle a figé, elle se sentait pas bien. Elle m'a expliqué clairement là que ça passait pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû apprendre à me maîtriser, à faire attention de comment je me comporte. Le faire aiguise le faire. À cause d'elle... Aujourd'hui, je suis un papa qui peut ne pas exploser tout le temps. Juste une fois de temps en temps. Parce qu'elle m'a aidé, elle a contribué à forger mon caractère. Amen! Un autre texte que j'ai pris, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre ce texte-là et les relations? Je trouve que c'est extrêmement approprié, ce texte-là, avec les relations. Dans Proverbes 23, verset 29. Pour qu'il ait A, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ne regarde pas le vin parce qu'il est beau, d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas mal. On m'a battu et je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. » Et ce texte nous met en garde contre l'abus d'alcool, contre l'abus de consommation d'alcool. Et si on veut réussir nos relations, il faut veiller là-dessus. J'aime le bon vin. J'aime les bonnes bières. Mais nous sommes appelés à connaître les limites comme chrétiens, à vivre différemment des gens qui nous entourent, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous sommes appelés à veiller sur notre consommation, parce que ça va avoir inévitablement de l'impact négatif ou positif sur les gens qui nous entourent. Si on boit trop, souvent, ça va affecter nos relations. Vous êtes là ce matin? C'est un petit avertissement pour moi, pour chacun d'entre nous. Prochain texte, 16:32. « La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer des villes. » Être lent à la colère est une capacité à développer. La Bible ne dit pas de ne jamais se fâcher, de ne jamais être en colère. Combien ça vous arrive d'être en colère? Lève ta main si des fois tu es en colère. Et si ça t'arrive jamais, je sais pas dans quelle planète tu arrives, mais moi, ça m'arrive de me fâcher d'être en colère. Okay? Ouh! Ouh! Hein, y a l'ordre! Ouh! Mais la Bible nous enseigne à être lent à la colère, de faire attention à quand on est en colère, de pas pécher quand on est en colère. Savez-vous que Dieu lui-même, dans ses attributs de divinité, un de ses attributs, c'est qu'il est lent à la colère. Et nous sommes appelés à être comme lui, à devenir plus doux, plus calme, plus en maîtrise de nos émotions. Et pour ça, on a besoin des autres et on a besoin de Dieu, vraiment. La relation également demande de l'investissement de soi. Proverbe 27:18, « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. » Proverbe 12:11, « Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain. » Et celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Là où tu mets de l'énergie, là où tu mets du temps, c'est là que ça va fonctionner. C'est là que ça va marcher. J'aimerais te dire aujourd'hui que ton couple a besoin de toi. C'est profond, hein? Ah oui, oui! Ton couple a besoin de toi. Ton mariage a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Une des façons qu'on peut investir dans les relations, c'est en mettant du temps dans les relations qui comptent pour nous. En investissant du temps. Rien ne remplace le temps. Rien ne remplace le temps. Les moments de qualité ensemble, avec les gens qui sont précieux pour nous, c'est important. Et vous savez, le temps, c'est une ressource qui s'envole. C'est une ressource qui est épuisable. Et nous sommes appelés à des bons gestionnaires de notre temps, du temps que Dieu nous donne sur cette terre. Donc, aujourd'hui, je nous invite à réfléchir, c'est quoi les relations qui comptent pour moi, qui sont précieuses pour moi? Est-ce que j'investis le temps que ces relations-là méritent? Il y a des amis qu'on voit une fois par année et c'est tout à fait correct. Mais mon couple, ça ne peut pas être comme ça. J'ai besoin de mettre du temps, mettre de l'énergie pour que ça fonctionne, d'être présent. Mes enfants ont besoin de moi. Ils ont besoin que je sois présent, que je sois là. Ils ont besoin de temps avec papa. Vous êtes là aujourd'hui? Que le Seigneur nous donne de bien gérer notre temps, d'avoir la sagesse, de savoir dans quelle relation je dois m'investir, à quel endroit je dois mettre du temps pour que ça fonctionne, que le Seigneur nous aide là-dedans. Ça, c'était quelques conseils pour réussir nos relations en général. Ça s'applique à toutes nos relations. Un conseil pour réussir nos relations avec nos enfants, ceux qui ont des jeunes enfants principalement, Proverbe 22:6, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Juste un rappel aux parents ici, qui ont des jeunes enfants, même adolescents, l'investissement dans la vie de nos enfants est précieux. Le temps qu'on passe avec eux est précieux. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'école ni l'Église pour élever vos enfants, pour leur transmettre des valeurs. Ni sur les médias, ni sur les médias sociaux, nous sommes responsables comme parents de ce qui est transmis à nos enfants. C'est notre responsabilité. C'est à nous de leur transmettre, de prendre le temps avec eux, avec nos enfants. Et tout ce qu'on sème dans leur vie, même dans les tout-petits, même dans les tout-petits bébés, tout ce qu'on sème de positif, ce n'est pas perdu. Des fois, on voit qu'ils prennent des mauvaises décisions occasionnellement, des fois quand ils deviennent adultes ou peu importe, mais sachez que ce que vous avez semé de positif, le temps de qualité, l'amour, les paroles d'encouragement, tout cela aura un impact dans leur vie et contribue à qui ils vont devenir dans la vie. Dernièrement, on a su que nos enfants allaient avoir des cours sur la sexualité à l'école. Super, c'est vraiment bien qu'il y ait des cours sur la sexualité, mais c'était quand même le temps que je prenne un temps avec eux et que j'adresse des vraies affaires. Amen. En détail. Hein? D'aller de répondre à leurs questions, de m'asseoir avec eux, d'ouvrir la Bible avec eux. Parce que si je laisse juste l'école faire, on est mal barré. On est mal barré. C'est pas ça que je veux transmettre à mes enfants. Donc, c'est notre responsabilité et ça aura un impact. Des fois, ça peut être long avant de voir le résultat, mais ça va avoir un impact. Quelques conseils pour réussir son mariage. Tellement important. Un rappel des bases. Je lis un texte dans la Genèse, à partir du verset 18, le chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée, elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Un bref rappel de la vision biblique du mariage. Dieu nous bénit le mariage tout d'abord, c'est son idée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a voulu que l'homme soit accompagné d'une femme, que les deux ensemble forment un couple dans le cadre du mariage et que les deux ensemble soient épanouis. C'est le désir de Dieu pour les couples. Dieu a également créé la sexualité. Des fois, on a entendu parler dans l'Église que le sexe, c'est mal. Avez-vous déjà entendu des trucs de ce style-là? C'est mal, c'est pas de Dieu, restez loin du sexe. Mais en fait, avez-vous déjà pensé que c'est Dieu qui a créé le plaisir sexuel? C'est son idée. Ça vient pas de Satan, ça. C'est pas Dieu qui a pas créé les oreilles, le nez, les mains, puis les pieds. Puis là, il a dit à Satan, okay, occupe-toi du petit bout à la fin. Non, ça vient de Dieu. C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons épanouis à tous les niveaux dans notre mariage, également sexuellement, et j'y reviens dans un instant. Une des choses qui est très importante pour que nos couples fonctionnent, nos mariages fonctionnent, c'est la paix qu'il y a dans nos familles. 21:19 nous dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Et avant que tous les hommes disent « Amen », on peut dire aussi le contraire. Hein? Mieux vaut une terre déserte qu'habiter avec un homme querelleux et irritable. Hein? Merci Diane. J'ai une question pour vous ce matin. Comment on peut faire pour augmenter le niveau de paix dans nos familles et nos foyers? Tu peux lever ta main pour répondre si tu veux. Donnez-moi des idées, des conseils, là. Plus de paix dans nos familles, plus de paix dans nos couples. Oui?
Gérer
mes frustrations, oui. Attendre avant de parler, merci beaucoup, oui.
Ressembler plus à Jésus.
Oui. Tu peux-tu prendre ma place? C'est un bon conseil, ça. Tu pourrais prêcher avec ça. Oui.
Respecter l'autre.
Oui. Ben oui. Oui, respecter l'autre. D'autres conseils pour plus de paix dans nos couples, mais aussi dans notre maison, dans nos foyers, oui. Oui, merci. Oui.
Diminuer nos attentes.
C'est excellent. Non, c'est vrai. J'ai demandé des trucs pratiques. Si tu... C'est très pratique et réaliste. Si tu t'attends quand tu te maries que le gars, là, il va toujours sentir la même chose qu'à son mariage. Il sent pas toujours la même chose. OK? Que tes attentes soient diminuées un peu. OK? Oui. Être patient, oui. Tout ça est excellent. On veut vraiment augmenter le niveau de paix dans nos maisons. Plusieurs, il y a d'autres conseils pratiques que je peux donner, comme prendre le temps de manger ensemble en famille. Que ça devienne une habitude importante. Ça vient d'elle, là. Ça vient de ma femme. Elle exige qu'on soupe ensemble, parce que sinon, on mange un peu, puis on part, puis on fait nos activités, puis c'est tout. Mais qu'on s'arrête pour manger ensemble. Autre truc, moins d'écran. Un petit peu moins d'écran. Il y en a en masse d'écran tout le temps. On peut-tu en enlever un peu? Ça va augmenter la paix. Choisir ses batailles. Hein, ne pas faire des tempêtes dans un verre d'eau. Des fois, là, ça vaut pas la peine de créer le conflit du siècle, là, parce qu'il a mis la fourchette dans le truc des couteaux. Ça vaut pas la peine. Mais suivez-vous, choisir ses batailles. Prier ensemble. Ça peut être une idée comme ça. Quelqu'un l'a dit tantôt, mais exiger le respect dans tous nos rapports et dans toutes nos interactions. Il faut du respect. C'est quand même la base. D'être plus doux, plus patient, d'éviter de crier, etc. On veut que nos couples fonctionnent, que nos familles, que ce soit plus agréable de vivre chez nous, qu'on puisse faire des efforts conscients pour plus de paix chez nous. Amen! Je continue. Les proverbes nous encouragent aussi à la pureté sexuelle. On a vu que c'est l'idée de Dieu, la sexualité, oui, pour la reproduction, mais aussi pour le plaisir et pour le lien que ça crée entre un homme et une femme. Le lien puissant, c'est plus que physique, quelque chose d'émotionnel et de profond et de puissant dans la sexualité. Mais les proverbes et la Bible, en général, nous enseignent à la pureté sexuelle. Tout ce qui n'est pas relation sexuelle entre un homme et une femme à l'intérieur du mariage est proscrit. Et voici quelques textes vraiment formidables. J'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un jeune garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes. Il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. 16:30, celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres, a déjà accompli le mal. Proverbe 6:24, flatterie de l'inconnu, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture des vies précieuses. Peut-on prendre un feu contre soi sans que ses habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Un des fléaux de notre société, c'est la pornographie. C'est une industrie qui est majeure de plusieurs milliards de dollars. Une industrie monstre qui encourage l'exploitation sexuelle d'hommes, de femmes, de mineurs. Et en tant que croyant, on est appelé à se libérer de tout ce qui est de l'univers de la pornographie. Et j'en parle ce matin, c'est un message que j'ai prêché à mon église la semaine passée, et je pense que c'est important qu'il n'y ait pas de tabou dans l'église, qu'on puisse parler de tous les thèmes que la parole de Dieu aborde. Et j'ai vu de mes amis de l'église de la Chapelle qui ont fait quelques posts à ce sujet-là sur les médias sociaux la semaine passée. Je vous lis ce qu'ils ont écrit, je trouvais ça intéressant. Pourquoi la pornographie est-elle mauvaise? Quelques raisons ici. Elle déshumanise les gens. Elle altère le cerveau. Elle détruit notre capacité à l'intimité. Elle est un mauvais professeur. Elle blesse le cœur de Dieu. Je ne creuserai pas chacune de ces affaires-là, mais je continue. 7 habitudes pour se défaire de la pornographie. Tout d'abord, la repentance. Ça commence par un cœur qui dit « Seigneur, pardonne-moi pour cette mauvaise habitude, puis libère-moi. » Ensuite, la redevabilité. D'aller vers quelqu'un de confiance, puis de s'ouvrir, d'ouvrir notre cœur, puis de dire, j'ai cette difficulté-là, j'ai ce problème-là, pourrais-tu prier avec moi? Est-ce que je peux venir te voir pour en jaser? Un autre truc qui s'appelle le rebound, hein, le rebond. c'est qu'à chaque fois que tu vois quelque chose qui stimule tes pensées, qui t'amènerait vers la pornographie, c'est le rebond. C'est que le rebond, c'est quoi? C'est que tu fais « Oups, là! » Tu regardes ailleurs. OK? Tu choisis de ne pas fixer ton regard sur ce qui est inapproprié. De renouveler nos pensées. De résister et de veiller face à la tentation. De réaliser la grâce de Dieu. Que Dieu, lorsque tu lui demandes pardon, il te pardonne totalement. Il t'aime. Tu n'es pas obligé de vivre sous la condamnation, la culpabilité, la honte. Parce que Dieu te libère. Dieu t'aime. Il te pardonne. Et ce qui va bien sûr t'aider à vivre libre, c'est de bâtir une relation solide avec Dieu. Relation solide avec Dieu par la prière, la lecture de la parole, en venant ici à l'église, en ayant des amis chrétiens. Bâtir une relation qui est solide avec Dieu. Tellement important. Et nous sommes appelés à être une église qui représente Jésus dans le public, mais aussi dans le privé. Dans le public, devant tout le monde, avoir une belle attitude en général, devant tout le monde, oui, mais aussi quand on est seul avec Dieu, dans nos décisions personnelles, dans comment on se comporte quand on est seul. Vous êtes toujours là? Un de mes textes préférés des Proverbes, Proverbe 5, verset 15 et les suivants. « Bois à l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? » Il y a ça dans la Bible. Il y a ça dans la Bible. C'est bon, la Bible. C'est beau, la Bible. C'est important de faire le balancier. Si on veut condamner certaines pratiques, on veut aussi rappeler ce que j'ai dit tantôt, que la sexualité, c'est l'idée de Dieu. Que c'est beau, que c'est bon, que le Seigneur nous appelle à en jouir et à développer cet élément-là dans notre vie. Maintenant, quelques éléments pour réussir notre vie de couple, en rafale encore une fois, pour retrouver la passion, l'intimité, de passer du temps ensemble pour la connexion émotionnelle d'abord. Ça commence comme ça. C'est la relation émotionnelle entre un homme et une femme qui est importante et qui est la base du couple. Faire des sorties ensemble, resto, ciné, marché en nature, autre. De respecter l'autre dans les saisons de sa vie. Que des fois, notre partenaire vit des saisons difficiles, de détresse, d'angoisse. Peut-être qu'elle vient juste d'accoucher, peut-être qu'elle est enceinte, peut-être que si. Qu'on puisse voir, qu'on puisse être juste doux, gentil, respectueux envers l'autre. De ne pas mettre de pression, mais d'être juste une personne gentille, amicale et qui prend le temps avec notre partenaire de vie, avec notre mari, notre femme. D'avoir des rendez-vous hebdomadaires où on est ensemble, on est en couple. La vie va tellement vite, on a tellement de responsabilités, on travaille, on court dans tous les sens. Si on veut se retrouver, il faut le mettre en quelque part dans l'agenda. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça tue tellement la vie de couple d'avoir des rendez-vous pour être ensemble. Ce qui tue encore plus ta vie de couple, c'est de ne pas être ensemble. Ça de même, là. Ah, ça tue la magie, la romance. Ouais, mais pas se parler pendant 4 semaines, sauf si ça tue la magie et la romance. Fait que d'avoir des rendez-vous où on dit que là, on est ensemble, il n'y a pas d'enfants, on connecte ensemble, on est ensemble. Amen. Je vous ramène à mon propre message. Parfois, partir à l'occasion pour un week-end sans enfants, ceux qui ont des jeunes enfants, de s'embrasser régulièrement, se faire des câlins, se donner des cadeaux, se dire des paroles gentilles et d'encouragement, de rendre un service à l'autre. Faire la vaisselle peut vraiment être quelque chose de « winner ». Dans ton couple. Je dis ça de même, là. Mais le Seigneur veut qu'on soit béni dans nos relations de couple. C'est son plan. Il veut te bénir dans ta relation de couple. Peut-être que tu vis des défis, des problèmes, des difficultés, et on en vit tous à un moment donné ou à un autre dans notre couple. Mais le Seigneur veut te bénir. C'est possible d'avoir un couple épanoui. Amen. Et mon dernier point ce matin, de conseils en rafale pour réussir ces relations, je vais parler d'amitié. Vous savez, c'est très important, les amitiés, et dans les Proverbes, on en parle beaucoup des amitiés. Quelques textes. Proverbe 17:17. L'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. Réussir ses amitiés, c'est d'être, d'avoir un amour inconditionnel et d'être présent même dans les moments difficiles. S'il y a un temps où il faut être présent dans la vie de nos amis, c'est quand ils vont pas bien. Quand ça va pas, là. C'est pas le temps de prendre une distance. C'est le temps d'être présent. C'est le temps d'être là. D'être présent pour nos amis. Quand il y a accouchement, des fois maladie, conflits familiaux, séparation, divorce, deuil, problème avec les enfants, problème de santé mentale, burn-out, qu'on soit là les uns pour les autres sans jugement. Tellement précieux. Tellement important. Combien d'entre nous, on aurait voulu avoir un ami à un moment de noirceur? Est-ce qu'on peut être cet ami-là pour les autres? Est-ce qu'on peut être cet ami-là fidèle quand l'autre ne va pas? Une des personnes qui m'a beaucoup inspiré à ce sujet-là, je vais la mettre sur le spot encore, mais c'est Yolande, mon amie Yolande. Parce que si tu ne vas pas bien, puis que tu es dans l'entourage de Yolande, elle va prendre soin de toi. Elle va être là pour toi. Elle va te dire, « Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Je peux-tu t'aider? » Puis t'es mieux de dire oui. Parce qu'elle va insister. Parce qu'un ami, ça fait ça. Un ami, ça insiste des fois pour aimer, aider, encourager, puis être présent. Amen?
Amen.
Autre truc pour les amitiés, et restez avec moi, je sais que c'est un peu plus long, mais j'achève, ça sera pas long. La qualité surpasse la quantité en matière d'amitié. Bien choisir est primordial. Celui qui a beaucoup d'amis, beaucoup de compagnons, les a pour son malheur. Il y a des amis plus attachés qu'un frère. Et celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente les hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Les amitiés, là, c'est pas un concours, puis c'est pas une collection. T'en as besoin de quelques-uns dans la vie. T'as pas besoin de 75 amis. Tu peux en avoir un, deux, quelques-uns. Puis, de t'investir dans ces relations-là est primordial, est important. Et aussi, j'aimerais dire que parfois, c'est bien d'arrêter certaines relations. Des fois, on va être là pour certaines personnes qui ont des difficultés, puis on veut prendre soin d'eux, puis il y a des fois où on doit avoir la sagesse de dire non, là, ça me tire vers le bas. Là, ça me fait vraiment pas du bien. Là, ça marche plus, cette affaire-là. Et des fois, c'est bien de s'éloigner d'une personne pour soi-même aller mieux, pour soi-même se relever aussi. Parce qu'on est appelé à s'aimer soi-même aussi. La Bible dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. » On prêche là-dessus ce matin. Mais la fin du « ton prochain », c'est quoi? C'est « comme toi-même ». T'es appelé aussi à te respecter toi, à t'aimer toi. Puis des fois, ça veut dire de briser une relation, des fois de couple, des fois amicale, parce que ça ne marche pas parfois, ça te fait du tort, ça te fait du mal. De veiller sur nos amis, d'oser parler des vraies affaires. Proverbe 27:5. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, n'est-ce pas, Lison? L'huile et les parfums réjouissent le cœur. Et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. N'abandonne pas ton ami ni celui de ton frère et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Et j'attire votre attention sur quelques éléments, sur les reproches ouverts qu'un ami peut nous faire, sur les blessures d'un ami, sur la douceur d'un ami et le fait de ne pas abandonner ton ami. Un vrai ami, là, il va te dire les vraies affaires. Il ne va pas te dire ce que tu as besoin, ce que tu as le goût d'entendre. Des fois, ça tombe ses nerfs, un vrai ami. C'est vrai. Des fois, c'est fatigant, un vrai ami. Parce qu'un vrai ami t'aime tellement qu'il va te dire tes quatre vérités. Avec amour, normalement. Avec douceur, normalement. Mais l'amitié avec quelqu'un, c'est qu'on est vulnérable envers l'autre. Puis on dit, « Hey, tu peux me dire, tu peux me parler si c'est de quoi qui ne va pas. » Puis moi, je peux te parler s'il y a de quoi qui va pas. Et ça, ça prend ça dans notre vie. Des gens à qui on peut se dire les vraies affaires. Des gens à qui on peut dire, écoute, ça fait plusieurs mois que t'es pas venu à l'église, plusieurs semaines que t'es pas venu à l'église. Je m'inquiète pour toi. L'église, c'est précieux. C'est important. Reviens donc. T'es le bienvenu. Ah, mais là, Laisse faire le « Ah, ben non, non, non. » Reviens. Ça va peut-être te déranger qu'on te dise ça, ça va peut-être te taper ses nerfs, mais c'est quelqu'un qui t'aime qui te dit ça. Si moi, je vois quelqu'un, un de mes amis, gars, puis qui est marié, puis je le vois un petit peu trop proche d'une autre fille, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais aller parler dans le casse. Je vais dire, « Hey, mon homme, calme des hormones, t'es marié. Relax. Je pense que c'était inapproprié comment tu lui as parlé. Je pense que le toucher physique que tu avais avec elle est un peu inapproprié. Comprenez? Un vrai ami va dire la vraie affaire à l'autre, même si ça dérange l'autre. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Qu'on puisse être ce genre de personne-là. On respecte les autres, on aime les autres, on est doux, mais on se parle des vraies affaires s'il y a besoin de se parler des vraies affaires. Je termine avec ceci. J'ai invité Julien et les musiciens à s'avancer. Pratiquer le pardon. Peu importe dans quelle relation on est, sans pardon, ça ne va pas très loin. Proverbe 17:9, celui qui couvre une offense recherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Tu veux que ton couple fonctionne, que ton mariage fonctionne, que tes amitiés fonctionnent, tu veux garder une relation sérieuse avec tes enfants, ça va prendre du pardon. Ça va prendre du pardon de demander pardon, d'accorder le pardon, de travailler au pardon. Ça prend ça. Ça prend ça pour que nos amitiés, nos relations fonctionnent. Juste avant de lire le dernier texte, je vous dis en rafale toutes les conseils que je vous ai donnés ce matin, juste pour avoir une vue d'ensemble et pour voir comment on peut les appliquer dans nos vies. Parce que l'idée, c'est pas un discours, hein? L'idée ce matin, c'est pas un discours. L'idée, c'est que on prend ça puis on dit, OK, mon cœur est comment, Seigneur? Comment je peux l'appliquer? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux devenir de plus en plus cette personne que tu veux que je sois? Donc, alors que je vais lire en rafale les conseils que je vous ai dit, reçois-les ce matin. Êtes-vous capable de faire ça? Lève tes mains de même, là, OK, je les reçois. Je les reçois, OK? On a vu ce matin être à l'écoute des autres, de veiller sur nos paroles, de voir au-delà des apparences. On a parlé que les relations nous forgent et nous forment, de faire attention à notre consommation d'alcool, d'être lent à la colère, d'apprendre à se maîtriser, que les relations demandent un investissement de soi, de prendre au sérieux notre rôle de parent. On a rappelé les bases du couple chrétien, un homme, une femme, mariés. On a vu également comment on peut améliorer la paix dans nos foyers. On a parlé de se libérer de la pornographie, de retrouver la passion dans notre couple. On a parlé d'amour inconditionnel dans nos amitiés, d'être présent, de qualité qui devance la quantité, de veiller sur nos amis, de parler des vraies affaires et de pratiquer le pardon. Que ces conseils-là puissent descendre au fond de nos cœurs, que la parole de Dieu, que les proverbes puissent descendre au fond de nos cœurs et qu'elles puissent avoir un impact dans notre vie et nos relations. Quand je préparais ce message, une part de moi qui disait, bon, il me semble que ce n'est pas si spirituel comme message. Tu ne prêches pas la prière, tu ne prêches pas le salut. Et le Seigneur m'a mis à cœur que oui, c'est extrêmement, extrêmement important et extrêmement spirituel. Extrêmement. Jean 13, 35 nous dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et 1 Pierre 1, 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » On veut être une église qui brille pour Jésus. La façon dont on se traite les uns les autres est extrêmement importante. Extrêmement importante. Si tu, devant chez toi, tu insultes ta femme devant les voisins, puis tu la traites mal, puis que tu vas voir ce voisin-là dans le temps de Noël pour dire, « Hey, tu viendrais-tu à mon église voir des belles chansons de Julien Adam? » Ton voisin, il ne va pas venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il va dire, « Pourquoi j'irais dans une église de quelqu'un qui crie après sa femme? » La façon dont on se traite est importante et précieuse. Et aujourd'hui, je prie pour nous, pour moi, mais pour chacun d'entre nous, qu'on puisse développer nos capacités relationnelles avec l'aide de Dieu, avec l'aide des uns des autres. Et qu'on puisse briller pour Jésus dans Charlevoix. Qu'on puisse briller pour Jésus par notre gentillesse, par notre douceur, par nos paroles, par la façon dont on se comporte les uns avec les autres. Et pour moi, c'est une des clés pour la croissance de l'Église. On pourrait parler de prière, de jeûne, on pourrait parler de la crainte de Dieu, de la générosité envers les pauvres, on pourrait parler de plein de clés pour la croissance, mais une des clés, c'est est-ce qu'on se traite bien les uns les autres? Quelqu'un qui vient à l'Église, là, s'il rentre dans l'Église puis qu'on prêche l'amour, puis qu'il voit dans l'Église de la critique, qu'il voit dans l'Église du monde qui « Ouais, mais telle personne, nanana, puis qu'il parle dans le dos de l'autre, ça marche pas. Ça freine la croissance. Ça éteint la croissance, ça éteint l'action de Dieu quand il y a cette critique ou quand il y a ce manque de douceur, d'amour les uns envers les autres. Êtes-vous d'accord avec ça? Que Dieu, si vous êtes d'accord, qu'on puisse tous s'engager aujourd'hui ensemble à s'améliorer là-dedans. Est-ce qu'on peut s'améliorer là-dedans? Est-ce qu'on peut s'engager à dire, Seigneur, fais de moi une personne qui applique ces conseils-là dans mon couple, dans ma vie personnelle avec les gens qui m'entourent, mais aussi avec mes frères et sœurs dans l'Église. Juste avant de faire un appel sur le sujet des relations, je t'invite à fermer les yeux un instant, à pencher ta tête, un signe de recueillement. On a parlé de relations, on a parlé des proverbes, mais ce matin, j'ai à cœur aussi de lancer une invitation dans ce lieu. Et des gens, vous êtes ici, et certains d'entre vous, vous n'avez pas encore de relation personnelle avec Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu personnellement. Vous ne connaissez pas Dieu intimement. Ou vous vous êtes éloigné de lui pour différentes raisons. Des blessures, des gens à l'Église qui vous ont blessé, des blessures personnelles, des difficultés. Ce matin, je voudrais juste te donner l'occasion de te rapprocher de Dieu. Je te demande pas de changer de religion, je te demande pas de signer un papier à la fin de la réunion, je te demande pas de comprendre tout de la Bible ou de la vie chrétienne. Mais ce matin, si tu es dans ce lieu et que tu ne connais pas Dieu encore, tu n'as pas encore rencontré Jésus de façon personnelle, tu as entendu parler de lui peut-être à travers une religion, tu as entendu son nom prononcé. Mais ce matin, je voudrais juste te dire que ce Jésus est réel, qu'il est vivant, qu'il est ici dans ce lieu, même si on ne le voit pas, qu'il t'aime. La Bible nous dit qu'il est mort sur une croix et que lorsqu'il est mort sur cette croix, il a porté nos fautes et nos péchés. Parce que la Bible dit que chacun d'entre nous, on est pécheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait des erreurs, on fait des gaffes. On n'est pas parfait. Des fois, on blesse les gens autour de nous. Et ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, c'est qu'il a pris justement ces gaffes, ces erreurs. Il a porté le prix. Il a porté la punition que nous devions avoir. Et parce qu'il l'a porté, nous sommes et nous pouvons maintenant être libres en lui. La Bible nous dit aussi qu'il est ressuscité. Après être mort à la croix, il est revenu à la vie afin que nous puissions nous aussi vivre pour l'éternité avec lui. Et ce matin, si tu es dans ce lieu, je veux juste te dire ou te rappeler que Jésus est vivant, que Jésus t'aime, qu'il veut te pardonner, qu'il veut te donner une liberté dans ta vie. Peut-être que c'est des termes nouveaux pour toi ce matin. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux, avec le plus de simplicité possible. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre, sinon qu'il t'aime et tu peux toi aussi avoir ce Jésus dans ta vie. Il y a un trou dans le cœur de l'homme, comme un vide dans le cœur de l'homme qu'on essaie de remplir pendant toute notre vie. Des fois par des drogues ou l'alcool ou par des relations amoureuses ou par des biens matériels. Mais si tu vis depuis assez longtemps sur cette terre, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui arrive vraiment à combler notre cœur. On finit par toujours manquer quelque chose. C'est comme s'il nous manque toujours quelque chose. Et j'aimerais te dire ce matin, bien simplement, bien humblement, que ce qui te manque, c'est Jésus. lorsque Jésus vient dans ton cœur, dans ta vie, tout d'un coup, il ne te manque plus rien. Tout d'un coup, tu deviens comblé. Tu ressens son amour, il te pardonne tes fautes, puis il te donne la possibilité d'avoir une nouvelle vie. D'où le nom de cette église. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc ce matin, avant d'aller de conclure cette réunion, j'aimerais, alors qu'on a les yeux fermés en recueillement, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui aimerait ça dire, écoute, je comprends pas tout ce que tu dis, mais j'ai ce désir, moi. J'ai cette soif. J'ai ce désir d'être comblé réellement, intérieurement. J'ai ce désir de recevoir ce Jésus que tu me parles ce matin. Et si c'est ton désir ce matin, tourne les yeux fermés. Mais je t'invite, si tu le veux, à lever ta main et à dire, moi, je veux recevoir ce Jésus dans ma vie. Parce que j'aimerais ça t'accompagner dans une prière dans un instant. Je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Des fois, on ne sait même pas comment prier. On ne sait même plus comment prier, mais je veux t'accompagner ce matin dans une simple prière. Donc, si tu veux faire ce pas de foi, tu veux dire, oui, je veux, j'aimerais avoir cette nouvelle vie. J'aimerais que Dieu, que Jésus me pardonne de mes erreurs, de mes péchés, qu'il me donne sa paix, qu'il me donne son amour. J'aimerais vivre spirituellement enfin. Tu peux-tu lever ta main maintenant, tout simplement, pour dire, oui, je te reçois, Seigneur. Merci pour les deux mains qui se lèvent, les trois mains qui se lèvent. Lorsque tu as levé ta main, tu peux la baisser par la suite. C'est vraiment l'important, au-delà de la main levée, c'est ce qui se passe dans ton cœur, la sincérité de ton cœur. Et je demande une dernière fois, par la suite, on va prier ensemble, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore levé la main, qui voudrait dire, je veux recevoir Jésus ce matin. Je veux le recevoir. Merci. Merci. Merci pour vos mains, les deux autres personnes qui prennent la décision ce matin de recevoir Jésus. Peut-être que tu es ici, ça fait longtemps que tu n'étais pas venu, ça fait longtemps que tu n'étais pas approché de Dieu. Tu connais le Seigneur, mais tu as besoin de revenir à lui. Tu t'étais éloigné, mais tu as besoin de revenir à lui. C'est toi ce matin, je t'invite toi aussi à lever ta main devant Dieu et à dire, je reviens à toi Seigneur, je te redonne encore mon cœur, ma vie. Merci. Merci pour les cœurs qui se tournent vers Jésus, les mains qui se lèvent, et quelques mains qui se lèvent dans ce lieu. Avant d'aller plus loin, je veux prier pour tout le monde qui a levé la main ce matin. On garde les yeux fermés, mais je veux prier pour toi. Je veux prier que ce moment soit un moment qui change ta vie. Mon Dieu, je te prie pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque personne dans ce lieu qui a décidé de te donner sa vie ce matin, de te laisser entrer dans son cœur ou de revenir à toi. Je te prie pour eux. Je te prie qu'ils puissent aujourd'hui, Seigneur, que leur vie change pour toujours à partir de cette journée. Pas à cause de moi, pas à cause de cette église, mais à cause de ton esprit qui est présent dans ce lieu, à cause de Jésus qui est vivant, et qui s'approche d'eux maintenant. Je te prie que tu pardonnes leurs péchés. Et je te prie, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, de te reconnaître, de reconnaître en toi le Sauveur, celui qui les sauve, et le Seigneur, celui qui est le maître de la vie. Seigneur, bénis-les, accompagne-les dans les prochaines étapes de leur vie, qu'ils soient entourés de toi. C'est au nom de Jésus que je te prie pour eux. Est-ce qu'on peut tous se lever en terminant? Levons-nous tous ensemble. On va chanter un dernier chant ensemble ce matin. Et si tu as levé ta main pour donner ta vie à Jésus, pour redonner ta vie à Jésus, je veux juste te dire que c'est une décision extraordinaire. Moi, je l'ai pris quand j'étais adolescent et ça a changé le cours de mon existence. Je ne regrette pas d'avoir pris cette décision-là. Et quelques conseils pour toi. Je t'invite à te trouver une Bible. Si tu n'as pas de Bible, on va t'en donner une ici, on va t'en trouver une. Et de commencer à lire ce livre-là, c'est le livre de vie. Il y a plein de conseils, de vérités qui vont t'aider à cheminer. Je t'invite aussi à fréquenter l'église. Cette église-ci ou une autre, si tu habites ailleurs, ça fait du bien d'aller à l'église, d'avoir des frères et sœurs, des gens qui sont autour de toi et d'entendre parler de la Bible, d'entendre parler de la parole de Dieu. Et je t'invite aussi à commencer à prier. Prier, c'est de parler à Dieu. Donc, tu peux parler à Dieu chez toi, dans ton auto, dans ta chambre, là où tu es, et de lui parler, communiquer avec lui. Et au début, tu vas peut-être te trouver un peu bizarre, parce que tu te dis, à qui je parle, moi? Es-tu vraiment là? Sais-tu qu'est-ce qui se passe? Mais crois-moi, il est là, il t'entend, et de commencer à prier va vraiment aussi changer ta vie. Et ce matin, on va parler des relations, on va demander au Seigneur qu'il nous transforme, qu'il nous rende de plus en plus à son image, et on va chanter un dernier chant ensemble. Vous êtes prêts à chanter un dernier chant? Est-ce que je peux avoir vos mains? Bien, vous êtes toujours là.